Prendre le micro parce que j'ai pas une voix qui porte et j'avais un peu peur de ça, donc c'est la technologie nous aide. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci d'être à l'heure. Donc on va démarrer cette étude aujourd'hui. Qui va être sur le thème, c'est l'autorité selon la parole. Et voilà, bon, j'ai un petit peu le trac parce que c'est la première fois que je fais une étude biblique, donc je suis pas trop habitué à cet exercice. Donc soyez indulgents si le timing n'est pas forcément trop bien respecté, si au niveau des... si ça manque un peu de lien, mais bon, voilà, on s'en remet au Seigneur, heureusement. Et donc on va démarrer cette étude parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, c'est un sujet assez vaste. Avant, on va commencer en priant. Est-ce qu'il y a quelques sujets de prière importants à partager?
Vous priez pour Romain? Parce qu'il m'a appelé hier à 23h.
Romain, ouais.
Alors je me suis dit, c'est pas pour rien qu'il m'appelle. Et donc, il était en stage vers Antibes pour un travail. Et il avait 2 mois d'essai. Ce mois d'essai se termine fin vendredi, là. Et ils le prennent pas.
D'accord.
Alors il a l'appartement, il a la voiture. Donc,
pas de revenus, difficile.
Donc il est dans une situation difficile, donc il est un petit peu affolé.
Ok, donc priez pour la situation de Romain.
Oh, d'accord.
Toujours Patricia.
Patricia, bien sûr, aussi.
Oui, je l'ai eu aussi, au téléphone.
Olivier aussi.
Olivier.
Je l'ai eu en février, au bout de 15 jours, enfin, pas trop de détails.
On aurait pu faire deux.
On est intervenu en France.
D'accord, donc Olivier est revenu. Ok, donc on va prier. Est-ce que Jean, s'il te plaît, tu voudrais prier? Donc on rappelle les sujets, Romain, Olivier, donc la situation toujours de Patricia qui...
Père Céleste, nous nous courons devant ta sainte face. Nous venons auprès de toi car tu es notre Dieu. Car c'est toi qui nous as donné un rendez-vous ce soir parce que tu veux parler à nos cœurs. Parce que tu veux vraiment nous dire des choses très importantes et permet que nos cœurs soient ouverts. Qu'il n'y ait aucune influence extérieure, intérieure et que toute la place te soit laissée, Seigneur. Afin que ton esprit puisse nous parler au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Dispose nos cœurs. Dispose nos esprits, dispose vraiment tout ce que nous avons et que, Seigneur, nous puissions ressortir d'ici étant réconfortés, étant exhortés, étant enseignés, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, vraiment, nous te donnons tout. Seigneur, nous voulons aussi te remettre Romain avec ce stage à Antibes. Tu vois, Seigneur, qu'il n'a pas été retenu. Seigneur, nous prions à toi parce qu'avec toi, il n'y a pas de hasard. Si ça arrive comme ça, c'est qu'il y a un plan. Seigneur, tu cherches aussi le cœur de ce garçon. Nous te le remettons. Nous crions à toi pour que Romain puisse se tourner vraiment vers toi et te donner vraiment son cœur et qu'il puisse se convertir. Nous te remettons aussi la suite parce qu'il a quand même beaucoup de choses, des appartements et tout ça, qu'il doit payer. Seigneur, permet qu'il y ait une solution, qu'il y ait vraiment quelque chose qui s'ouvre pour lui. Afin qu'il puisse régler aussi ses dettes, Seigneur. Nous te le remettons et nous te demandons que son cœur se tourne vers toi, pour qu'il compte vers toi, et que, Seigneur, il ne puisse pas compter sur lui-même, Seigneur. Nous voulons te remettre aussi la situation difficile de Patricia et Kim, et te demander, Seigneur, que tu puisses les aider, parce que vraiment, nous sommes là au bord de... on leur demande de partir. Seigneur, il n'y a plus d'autre issue. Si tu n'interviens pas, Seigneur, la situation risque d'être catastrophique. Nous remettons cette situation entre tes mains, sachant que là aussi, il n'y a pas de hasard, et que vraiment tout est entre tes mains, et que tu soutiens toutes choses, Seigneur. Merci, nous te les remettons, nous prions à toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Nous te remettons tout, Seigneur. Merci pour tout, et aussi la situation d'Olivier, Seigneur. Nous te remettons toutes choses parce que tu le connais. Parce que, Seigneur, c'est aussi ton enfant, et nous te le remettons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Alors voilà, donc il restait un créneau de libre pour les études du mardi, et donc avec les anciens, on a pensé qu'il était bon de traiter ce sujet de l'autorité. Pas parce qu'il y a des problèmes dans l'Église, pas du tout, il n'y a aucun problème majeur, donc on peut en parler d'autant plus librement. Mais c'est vraiment parce que on sent en fait une pression de certains mouvements avec à la clé le début de dérèglements majeurs qui sont en train de se mettre en place dans la société et qui remettent vraiment en cause les principes bibliques. Alors c'est quelque chose qui peut nous effrayer, mais il ne faut pas qu'on soit effrayé puisqu'on sait, c'est écrit dans la parole, ces choses doivent arriver. Donc il faut juste les aborder et les traiter. On a par exemple l'éclatement de la cellule familiale, on voit de plus en plus de difficultés dans les familles. On voit une remise en question du genre homme-femme. On a des jeunes parents qui n'appellent plus leurs enfants soit il, soit elle, mais yel. Il y a des mouvements donc LGBTQA+, QIA+, voilà, il y a plein de dénominations. Vous avez peut-être entendu parler aussi du wokisme, c'est un phénomène qui vient des États-Unis, qui à la base est pour défendre les minorités raciales qui étaient maltraitées, mais là, petit à petit, en fait, ces mouvements cherchent à imposer des idéologies pour modifier vraiment les mœurs, donc il faut le regarder. Donc pourquoi parler de l'exercice de l'autorité ? Parce qu'il faut veiller à ne pas nous laisser aussi influencer dans l'Église avec des attaques qui pourraient être subtiles de l'ennemi. C'est-à-dire que, en général, un chrétien ne va pas se laisser entraîner dans des péchés majeurs qui affecteraient directement notre conscience. Par contre, au niveau de l'autorité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et l'ennemi se sert parfois de ce genre d'attaque pour faire des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ce que dit la parole sur l'autorité. Et c'est aussi un témoignage de donner autour de nous que d'obéir en fait à ce que dit la Bible. Et c'est vrai que cette société, on le voit, a terriblement besoin de lumière. Alors je ne sais pas si ce monde est prêt à se soumettre à l'autorité de la parole, mais ce qui est sûr, c'est que le témoignage des chrétiens, avec cette obéissance à l'autorité, peut l'interpeller. Et c'est vraiment ce que nous avons à cœur. Donc au niveau du plan de l'étude, on va voir... Alors, je vous distribue les célèbres feuilles. Alors, je donne à peu près la moitié là. Et la moitié là. Donc j'ai mis le plan de l'étude avec beaucoup de versets. N'ayez pas peur quand vous allez l'avoir. Et j'ai fait comme certains font, c'est-à-dire que j'ai surligné en gras les passages que nous allons lire. On ne va pas pouvoir tous les lire parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. Mais vous pourrez les relire soit pendant l'étude, soit à la maison. Donc on va traiter d'abord les diverses formes d'autorité qu'on trouve dans la parole. L'attitude du chrétien face aux autorités en place. Ensuite, on va voir comment exercer l'autorité à la lumière de la Bible. Et puis on va faire un focus sur l'autorité au sein du couple, parce que c'est vraiment un sujet qui doit se traiter à fond, parce qu'en fait, si on passe vite là-dessus, on peut oublier des choses, et c'est tellement important qu'il faut vraiment faire un focus là-dessus, et puis on fera une conclusion. Alors on commence avec le chef de toute autorité, on va passer rapidement, parce que c'est vraiment un point qui est tellement évident que on va vite le voir. Bien entendu, Dieu est au-dessus de toute autorité, puisque c'est lui le Créateur. Et on va pouvoir prendre le passage de 2 Chroniques 26, si quelqu'un peut le lire.
Et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ?
Voilà, donc bon, c'est un exemple de passage qui parle de la puissance de Dieu, de bien entendu le fait qu'il est au-dessus de toute autorité. Vous pourrez donc poursuivre avec l'autre verset qui est inscrit. Donc, Dieu le Père, il y a aussi Dieu le Fils, Jésus-Christ a lui aussi toute autorité puisqu'il est lui-même Dieu. On peut lire Éphésiens 1, versets 20 à 23.
Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Voilà, donc là c'est un passage qui est également très très explicite sur l'autorité de Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et ensuite, nous pouvons aussi voir que même au travers de son ministère terrestre, lorsque Jésus est descendu sur la terre pour partager notre humanité, il a conservé ses attributs d'autorité. Vous pourrez le lire dans Matthieu 7, où on voit que les gens sont frappés du fait qu'il enseigne avec autorité. On voit aussi dans Marc 4, où il maîtrise les éléments naturels et il calme la tempête. Ça aussi, ça impressionne les gens. Et également dans Jean 10, où il nous dit qu'il a le pouvoir sur la mort. J'ai le pouvoir sur la mort, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Okay. Et ensuite, on a bien entendu aussi l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit, qui guide aujourd'hui les croyants après l'ascension de Jésus. Et ça, on peut voir aussi des exemples dans le livre des Actes. Alors maintenant, on va voir des exemples de personnages ayant reçu de l'autorité, parce que Dieu, il a cette toute-puissance, cette souveraineté concernant l'autorité, mais il donne à certains personnages, en fait, de son autorité. Et en premier lieu, on peut le voir dans Psaume 8, versets 5 à 8, il donne en fait une domination aux hommes en général.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs.
Voilà, donc là aussi, c'est quand même incroyable de voir que Dieu nous donne cette autorité, cette domination sur la terre, sur sa création. Et au passage, pour faire une petite parenthèse, ça doit aussi, je pense, nous alerter sur l'importance que notre société donne à la nature. Notre planète, bien entendu, elle doit être bien gérée. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de mesures écologiques anti-gaspillage qui sont absolument nécessaires, parce que je pense que l'homme a vraiment fait n'importe quoi avec la planète, et on voit au niveau des différents signaux qu'elle ne va pas bien. Mais en fait, il faut rappeler que nous sommes le joyau de sa création, et en fait, Dieu... On peut avoir tendance aujourd'hui dans la société à laisser entendre que la planète a plus d'importance que l'humanité. Un petit peu comme si nous, on va peut-être se détruire, mais la planète, elle va perdurer, donc il faut la préserver. Et par contre, ce n'est pas biblique de dire ça. Puisqu'en fait, quand on lit les Écritures, on sait très bien que la Bible, elle ne va pas survivre à l'humanité. Et donc Dieu, quand il va venir juger les hommes et nous emmener à lui dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, cette planète va être complètement détruite par le feu, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas se soucier de sa préservation. Bien entendu, il faut le faire. Ensuite, si on prend la chronologie de l'histoire de la Bible, on voit que Dieu va donner des autorités assez rapidement à certains hommes pour des rôles clés et pour dérouler le plan du salut qu'il propose à tous les hommes. Donc on peut voir déjà qu'il a donné ça, de l'autorité aux prophètes, aux différents patriarches. On peut lire ça dans Deutéronome 18:18.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Voilà, donc Dieu se sert d'homme pour exprimer sa parole. Également, il a donné de l'autorité aux rois de la terre, à des rois étrangers pour exécuter ses plans. Nebuchadnezzar, par exemple, Cyrus, on peut lire ça dans Jérémie, dans Esdras. Il a donné aussi de l'autorité à des peuples pour exécuter des jugements. On peut lire ça aussi dans Jérémie 51. Il a donné de l'autorité aux disciples et aux apôtres. On va quand même lire Matthieu 18:18 qui nous éclaire.
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
Voilà, donc assez fort l'autorité que Dieu donne à ses disciples, et également aux dirigeants de l'Église, dans le but de l'édification de l'Église. On peut lire ça dans 1 Thessaloniciens 5:12.
Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent.
Voilà, donc là il est parlé d'avertissement, de direction, de comme un rôle de contrôle en fait et de surveillance. On peut voir une chose qui est quand même dont on n'a pas encore parlé, et c'est le moment d'en parler, c'est que de manière tout à fait incroyable, la gouvernance de la terre a été laissée aujourd'hui à Satan et à ses anges. Et on peut lire ça dans Éphésiens 6, versets 10 à 12.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un mystère de voir combien Dieu qui est souverain, qui est au-dessus de tout, laisse le diable diriger et saccager le monde. Et en fait, Satan est appelé dans Jean, par exemple, le prince de ce monde, ou même le dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens 4:4. Et en fait, on comprend que c'est une forme de malédiction après la chute. Il a laissé les commandes à cet ange déchu, tout en gardant la main, et ça ne veut pas dire que Dieu ne s'inquiète pas de ce qui se passe sur la terre, mais en fait, il se réserve pour le jour du jugement. Et donc, nous vivons dans une période de l'histoire, en plus, où Satan, il est en sursis, parce que Jésus est venu, Jésus a vaincu l'ennemi à la croix, et c'est donc en fait Satan comme un individu qui est déjà condamné, mais qui n'a pas encore été saisi et enfermé, qui continue à faire des ravages. La Bible, donc, dans ce passage de Éphésiens 6, nous demande de résister en apprenant à dépendre de Christ, lui qui est déjà vainqueur, et en fait à attendre patiemment que l'Éternel juge et règne. C'est un peu, ça m'a fait penser à la patience de Job, qui n'a pas renié Dieu malgré toutes les attaques de l'ennemi, parce qu'il savait dans son cœur que Dieu est au-dessus de toutes choses, il savait qu'il était aimé de Dieu. Alors maintenant on va voir quelques exemples de relations impliquant un rapport d'autorité. Et en fait, on voit que c'est assez vaste. On a des relations d'autorité dans notre rapport à l'État. Nous sommes invités à nous soumettre au gouvernement en place. On peut lire ça dans 1 Pierre 2, 13 à 17.
Obéissez aux autorités, à cause du Seigneur, au roi, particulier le chef de pays, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui ont fait le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu de ceci, par de vos actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Voilà. Ayez du respect pour tout le monde, aimez vos frères et vos frères chrétiens, aimez Dieu et respectez vos rois.
C'était Néron qui était.
Voilà, donc c'est.
Qui était roi, l'empereur.
C'est assez clair. Oui, tu voulais dire.
En plus, il me semble qu'à cette époque-là, si je me rappelle bien, c'était Néron qui était l'empereur de Rome.
Ouais.
Donc, c'était pas quelqu'un de recommandable. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, ce roi-là ou ce gouverneur, bon, lui, on ne peut pas lui obéir. Voilà. C'est quand même flagrant. Oui, oui. Ouais.
Exactement. Alors, on a des rapports d'autorité aussi avec notre employeur. On peut lire ça dans Éphésiens 6, versets 5 à 6.
Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
Voilà, je ne sais pas pour vous, mais là, quand on arrive à ce genre de verset, on sent que la pression monte, en fait. Hein. C'est quand même... ça commence à piquer. On continue avec 1 Pierre 2, 18 à 20.
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.
Voilà, merci. Donc, effectivement, tu n'as toi non plus pas pu résister d'aller jusqu'à la fin du chapitre, parce que j'avais marqué jusqu'à 20.
Non, là, il y a marqué 25.
Ah, mais alors, pardon, parce que moi, j'ai marqué 20.
C'est pour ça que vous faites jusqu'à 25.
Et en fait, je l'avais mis au début jusqu'à 25, et parce que c'est vrai que c'est vraiment trop tentant d'y aller. Donc, c'est un verset aussi qui nous apprend beaucoup de choses, mais on va y revenir après coup là-dessus. Mais on voit que la barre est quand même assez haute, hein, de ce qui nous est demandé, ouais, par rapport à notre soumission vis-à-vis des autorités en place. On a aussi des relations d'autorité entre les parents et les enfants. Ça, mmh, se lit dans Éphésiens 6, verset 1.
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste.
Voilà. Et puis également dans le couple, au niveau du rôle de l'homme et de la femme, où il est indiqué que la femme doit être soumise à son mari. On peut lire ça dans Éphésiens 5, 22-24.
Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Voilà, donc là, c'est juste pour placer le décor, et on a vu qu'on va traiter vraiment ce point à la fin de l'étude. Okay, à noter qu'on a vu, on a lu des passages écrits par Pierre et par Paul. Et en fait, ils sont exactement sur le même registre. Et quasiment, on peut retrouver les mêmes écrits par Paul que ceux par Pierre. L'Esprit leur a communiqué les mêmes vérités, ce qui donne encore plus de poids, je trouve, à ce que nous venons de lire, et qui place vraiment de manière claire ces liens d'autorité. Alors ensuite, notre attitude face aux autorités en place. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a deux niveaux de lecture. Soit nous sommes sous une autorité, soit nous exerçons une autorité. Et dans une même journée, il peut arriver que nous soyons sous l'autorité de quelqu'un et que nous exercions aussi l'autorité sur quelqu'un. Par exemple, une femme va être soumise à l'autorité de son mari, mais par contre, si elle a des employés, bien, elle va être en autorité vis-à-vis de ses employés. On peut prendre plein d'exemples comme ça. Un gouverneur va être soumis va avoir de grandes responsabilités, mais peut être soumis aussi à d'autres choses. Donc, c'est vraiment... pour tous, en fait, que cela est vu. Alors, pourquoi est-ce que nous devons être soumis à l'autorité, comme nous l'avons vu ? Déjà, pour suivre l'exemple de Jésus. Dans Marc 12, versets 13 à 17, nous avons un passage où Jésus affirme de façon claire que nous devons payer les impôts qui nous sont demandés. C'est là qu'il s'est écrit « Rendez à César ce qui est à César ». Et ça veut dire « Paye l'impôt à qui te le demande ». Les impôts, c'est souvent un bon baromètre de notre niveau de soumission à un État en général. Mais là, le Seigneur ne laisse aucune ambiguïté sur la position que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. Et il nous est demandé honnêteté et sincérité. Et c'est pas parce qu'on connaît le boss qu'on est dédouané de payer les impôts, donc il faut le faire. On va lire ce passage dans Matthieu 17, versets 24 à 27.
Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?»« Si, répondit-il, il le paie. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre, les fils ou les étrangers ?»« Les étrangers, répondit Pierre. » « Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. » Toutefois, ne semons pas le trouble chez ces gens. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux.
Voilà, donc ici aussi on voit que Jésus est en droit de ne pas payer un impôt puisqu'il est fils de Dieu. Mais en fait, il ne veut pas scandaliser. Et donc, il aurait tous les droits de ne pas payer, mais il le fait quand même. Et ça, c'est un exemple frappant qui nous invite, nous aussi, à accepter ce qui nous est demandé, même si parfois ça peut nous paraître injuste, ou même si parfois, comme on l'a dit, on peut avoir des gouvernements qui ne sont pas forcément très recommandables. Mais Jésus est toujours resté calme et tranquille face à l'autorité romaine en plus, qui était quelque chose d'assez sévère. Soyons donc nous aussi résolus à nous soumettre pour suivre son exemple. Nous devons aussi nous soumettre à l'autorité parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça, on le lit dans Romains 13, 1 à 7.
Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la.
Voilà, donc là, tu n'avais pas fini, pardon. Non.
Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité. Non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent.
Voilà, merci. Donc, c'est vrai que, comme on l'a vu au début de l'étude, on a peut-être parfois tendance à oublier que Dieu, le Père, contrôle vraiment toute autorité qui se dresse devant nous. Et en fait, ce passage nous rappelle que c'est Dieu qui instaure ces choses et que donc, il faut vraiment nous en rappeler et c'est aussi par motif de conscience, comme on l'a lu. Nous devons aussi nous y soumettre en reconnaissance à la dette qui nous a été remise. Tite 3, versets 1 à 7.
Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres.
Voilà, donc là, on est invité à nous soumettre aussi à cela, un peu comme en reconnaissance de la dette énorme qui nous a été remise. Et ça fait penser à la parabole du serviteur oublieux à qui on a remis une dette énorme, son maître l'a acquitté, et puis dès qu'il croise quelqu'un qui lui doit très peu, il vient pour l'étrangler. Donc en fait, il y a un peu cette idée-là de vraiment se dire qu'on a tout en Christ aujourd'hui. Et puis il y a aussi une limite qui se trouve dans Actes 5, verset 29. Cette limite qui dit, on va le lire... Voilà, c'est quand les apôtres sont empêchés en fait d'annoncer la bonne nouvelle par les autorités. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Donc, on voit qu'il y a quand même une limite, et je pense que nous pouvons le ressentir dans notre cœur quand la limite est franchie. Exactement comme Daniel et ses amis, lorsqu'ils étaient dans la cour du roi en déportation, ils savaient qu'ils pouvaient être dans la cour du roi, mais lorsqu'il a fallu en fait adorer une statue, là leur conscience leur a vraiment montré le chemin. Et nous devons nous aussi nous rappeler que l'Église n'a jamais autant grandi que lorsqu'elle était persécutée, pareil pour le peuple d'Israël. Et donc Dieu permet aussi ces temps difficiles pour que nous apprenions à dépendre de lui, à tourner nos regards vers lui. Alors maintenant, on va voir quelle doit être notre attitude lorsque nous sommes en responsabilité. Ça paraît assez naturel de fonctionner avec des leaders, des personnes qu'un groupe va considérer comme responsables pour prendre des décisions importantes, pour trancher, pour mener, pour guider, pour surveiller. Et c'est quelque chose d'assez naturel, mais l'histoire de l'humanité nous a montré des dérives abusives en matière de pouvoir, et bien entendu, si on n'est pas conduit par Dieu, mais l'ennemi va se servir de l'orgueil de l'homme pour détruire, pour tout saccager. Donc on va regarder comment exercer l'autorité à la lumière de la parole, et je dois vous dire que j'étais quand même assez surpris, vous verrez pourquoi. Alors on va regarder deux bons exemples d'hommes à qui Dieu a confié des grandes responsabilités. Le premier, c'est l'exemple de Moïse. Dans la parole, c'est l'homme qui incarne sans doute le plus de responsabilités de la part de Dieu. Il est écrit dans Nombre 12:8, mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle de bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Il a reçu les tables de la loi, il a reçu les instructions de la première alliance. En fait, on pourrait passer la soirée à décrire toute l'œuvre que Dieu a accomplie au travers de lui. Et donc, on s'attend à avoir un homme rempli de force et de charisme. Et pourtant, ce qui semble le mieux caractériser cette figure majeure de la Bible, c'est pourtant son humilité. Et ça nous donne une indication très précise sur la bonne attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes en responsabilité. Ça commence dès son appel au buisson ardent, pas lorsque lui a voulu prendre les choses en main et qu'il s'est pris les pieds dans le tapis, mais quand Dieu l'a appelé. Dans Exode 3:11, il va dire à Dieu « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Exode 4:1, « Ils n'écouteront pas ma voix. » Exode 4:10, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. » En fait, il ne croit absolument pas en ses capacités, ce n'est pas de la fausse modestie, il pense que ce n'est pas la bonne personne. Et donc là, c'est une première indication très révélatrice. Si vous pensez être qualifié pour une mission, attention. C'est peut-être bien le cas, mais le plus souvent, les dons que nous avons sont plutôt des fruits qui sont visibles de l'extérieur, plutôt que par la personne concernée. Et pour une raison toute simple, c'est parce que Dieu veut que nous nous reposions entièrement sur lui et pas sur nos capacités intrinsèques. On va lire ce passage dans Nombre 11, versets 27 à 30. quand tout à coup il y a deux hommes qui se mettent à prophétiser dans le peuple.
Jeune garçon courut la montagne à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël.
Voilà. Donc là, ça montre bien l'attitude de cœur de Moïse. Il n'est pas dérouté par ce qui se passe, parce qu'en fait, il est vraiment quelqu'un de désintéressé. L'exercice de l'autorité doit être abordé comme un fardeau et non comme un cadeau ou un pouvoir, parce qu'on comprend la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis du plan de Dieu. Une autorité, c'est pas un titre ou un trophée à défendre coûte que coûte, mais nous devons intégrer cette fonction particulière que cette fonction peut nous être donnée et peut nous être aussi reprise. On a un autre exemple, c'est David. Lorsqu'il est oint par Samuel et que Saül le pourchasse, à deux reprises, il va avoir la possibilité de tuer Saül qui le pourchasse. Et ça, c'est une chose qui n'aurait vraiment choqué personne, puisqu'il était même poussé par ceux qui l'accompagnaient. Mais dans 1 Samuel 24, 4 à 8, et puis dans 1 Samuel 26, il va expliquer, il va dire, mais qui je suis pour toucher à loin de l'Éternel. En fait, il a vraiment un profond respect pour l'autorité que Dieu a donnée. Encore une fois, dans le choix que Dieu a fait, on a la confirmation d'un enseignement qui est tout à fait majeur. C'est qu'il a d'abord mis au pouvoir Saül, un homme qui semblait remplir vraiment tous les codes de la royauté à vue humaine. Il était grand, il est indiqué qu'il dépassait en fait tout le monde, il était fort. Et en fait, on sait quel échec ça a été. C'est d'ailleurs peut-être pour donner un exemple que Dieu a permis qu'il soit premièrement élevé. Donc David a cette crainte par rapport à la volonté de Dieu. Et j'ai été surpris parce que je m'attendais à voir vraiment un petit peu plus de muscles dans les hommes de Dieu. Mais finalement, chaque fois qu'il y a du muscle, on se rend compte que ça finit mal. On peut voir donc Saül, on l'a dit, il a pris les choses, il a un petit peu dépassé son rôle, sa mission, ça s'est mal terminé. On peut citer l'exemple de Samson aussi, qui a été saisi par l'esprit, mais qui, c'est vrai, se l'est un peu gardé pour lui. On a aussi l'exemple des rois d'Israël vont en guerre. Il y en a eu plein qui, lorsqu'ils voulaient partir à la guerre, mais ne considéraient pas les plans de Dieu, se sont pris les pieds dans le tapis. Et même Samuel allait se faire piéger lorsqu'il est arrivé chez Isaïe pour oindre le nouveau roi. Lorsqu'il a vu Éliab, il a vu qu'il était grand et fort. On va lire ce passage dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7.
Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Voilà, donc voilà comment c'est vrai que nous, on peut être perturbés par des mauvaises visions, mais heureusement, Dieu sait voir les personnes dont il a besoin. On sait aussi que Paul pouvait être des fois très direct dans son enseignement. Il avait reçu pleinement l'autorité divine. Et puis, on peut lire quand même des passages dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Voilà. Donc on voit qu'ailleurs, Paul va aussi lui se glorifier plutôt de ses faiblesses. Et on peut terminer avec des personnages comme Pierre, comme les fils de Zébédée, qui étaient pleins de fougue, et puis qui ont appris petit à petit à se laisser mettre en prison et à être heureux de ça. Donc c'est quelque chose de complètement bouleversant de voir comment, en fait, ils acceptent de se soumettre vraiment au plan de Dieu pour eux. On a une application très concrète de ces passages dans Philippiens 2, versets 3 à 8.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Voilà, donc on voit que vraiment, les dirigeants, les leaders dont on a parlé, en fait, apprennent à ressembler à l'exemple que Christ a laissé, en fait, dans leur attitude. Nous ne devons pas ici dire non plus que les dirigeants doivent s'écraser ou manquer de fermeté vis-à-vis de l'autorité qu'ils exercent, puisque la Bible demande de ne pas être timide ou craintif dans l'exercice de l'autorité lorsqu'elle nous est confiée. Mais la nuance, c'est justement de comprendre que si on aborde cette responsabilité avec la même humilité et la même crainte que Moïse ou David, comme un fardeau plutôt que comme une récompense, alors le dirigeant, il aura toute légitimité pour exercer l'autorité. Nous accepterons beaucoup plus facilement un ordre ou un recadrage s'il est donné par quelqu'un qui rentre dans ses schémas de bienveillance plutôt que par quelqu'un d'autoritaire ou d'orgueilleux. Et on peut aussi, on ne va pas le lire parce qu'il faut que j'accélère un peu, il y a ce passage dans 1 Timothée 3, versets 1 à 3 qui est le rôle des anciens, où on voit là aussi toute la rigueur qui est demandée là-dessus. Et il y a un mot qui revient aussi, c'est être désintéressé, il ne faut pas le faire ça par intérêt. Et on va lire par contre Matthieu 20, versets 25 à 28.
Jésus les appela et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Voilà. Donc pour clôturer ce chapitre sur l'attitude quand on a des responsabilités, un dirigeant n'est pas là pour être servi, mais pour servir. Et on peut lire aussi que dans Jacques 3, 1, il est dit que ceux qui ont des responsabilités seront jugés plus sévèrement. Donc on arrive, il nous reste un petit quart d'heure pour traiter donc la question du couple. Normalement, ça devrait passer juste. Alors, pour aborder ce thème, il était premièrement important de rappeler ces vérités que nous enseigne la Bible concernant l'attitude lorsque on est soumis à une autorité et lorsque on exerce une autorité. Notre société ne peut pas entendre ce chapitre. En fait, ça devient presque impossible d'affirmer que Dieu a confié l'autorité à l'homme et que la femme doit être soumise à son mari. Et souvent, on réduit la conception du mariage chrétien à cela, et il y a derrière cette formulation une interprétation négative de ce que ça représente, et souvent une méconnaissance de ce que dit vraiment la Bible à ce sujet. En fait, il y a un mélange qui est fait entre égalité et différence. Sous le prétexte de l'égalité, qui n'est absolument pas remise en question par la Bible, on cherche aujourd'hui à gommer toutes les différences, jusqu'à se demander si on ne va pas supprimer la mention homme ou femme de la carte d'identité, puisque ça a déjà été fait dans certains pays, et en fait, certainement que ça va arriver chez nous aussi. La Bible affirme bien qu'il y a des différences entre l'homme et la femme. Leurs rôles sont différents et complémentaires. Leurs besoins et leurs attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, nous devons faire attention parce qu'au milieu de toutes ces nouvelles revendications qui surgissent dans la société, il faut en tant que chrétien, je pense, savoir faire le tri et ne pas défendre des positions partisanes. Parce qu'en fait, il y a au milieu de ces mouvements des luttes qui sont légitimes. Parce que effectivement, l'homme a pu abuser dans l'histoire de sa position et écraser parfois le rôle de la femme. Et ça peut aussi expliquer une partie de cette énergie qui est mise dans ces combats. C'est pour ça qu'on peut se réjouir aujourd'hui de voir que les femmes sont poussées à aller porter plainte lorsqu'elles sont agressées. C'est absolument normal et nécessaire. On a le mouvement MeToo qui est quelque chose qui en fait dénonce les agressions sexuelles faites aux femmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager également. Sur un sujet un petit peu plus léger, mais qui est quand même révélateur, à travail égal, comment se fait-il que les femmes soient payées moins que les hommes? C'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Et si nous devons nous opposer à certains mouvements dont nous avons parlé au début, il faut vraiment toujours amener les débats sur ce que dit la Bible pour expliquer notre position. Et comme Jésus, il faut toujours savoir regarder le cœur du pécheur, garder de l'amour pour le pécheur, et c'est vraiment le péché que nous devons rejeter. Alors, que dit la Bible sur le mariage, sur le couple? On va commencer par le début, Genèse 1, 26 à 28.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Voilà, donc ici, on a le couple qui est dans le jardin d'Éden. Nous avons ici le plan parfait de Dieu pour le couple. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image de la Trinité. Et donc, on comprend que l'homme et la femme sont créés égaux. Et il semble là, à ce moment-là, qu'ils dominent ensemble sur la terre. On va un petit peu plus loin dans Genèse 2, versets 15 à 18. Je vais en lire un quand même. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et on va passer un petit peu plus loin en verset 21. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient plus de nus, ils n'en avaient point honte. Donc là, on a plus de détails, puisqu'on apprend que l'homme a été créé en premier, et la femme a été tirée de l'homme pour être une aide semblable à lui. Alors peut-être que pour certaines dames, elles peuvent vous dire que c'est un peu dégradant d'être une aide, mais absolument pas. Il faut le voir plutôt comme un prolongement, comme en fait un complément, une deuxième mi-temps de la création de l'humanité. Et en fait, c'est un complément absolument indispensable, puisque c'est vous, mesdames, qui avez reçu le privilège de la maternité. Et il faut bien considérer ici que l'homme et la femme étaient donc en parfaite harmonie, et le couple vivait sans péché dans le plan de Dieu. Il est aussi intéressant de remarquer et de considérer en fait une entière égalité entre les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais nous pouvons quand même dire qu'il y a un lien de subordination. C'est Dieu le Père qui a envoyé le Fils, et c'est Dieu le Fils qui a envoyé l'Esprit. Pourtant, les trois sont bien un et éternel. Et cela ne pose pas de problème. La répartition des rôles et les liens d'autorité sont acceptés dans la Trinité. Et je pense que cela doit nous encourager parce que nous avons vu que nous avons été créés à cette image. Donc, cette harmonie de ce couple à ce moment-là et s'explique par une compréhension absolue des différents rôles. Et donc, il y a le péché qui arrive, la malédiction. Et à partir de là, le diable a semé la pagaille au sein du couple. On va lire Genèse 3, versets 16 à 19.
Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à la force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. »
Voilà, donc, là on a les conséquences de la désobéissance, de l'arrivée du péché. La femme va souffrir lors de son accouchement. Et ses désirs vont se porter sur son mari. Et la punition de l'homme, pour avoir lui aussi désobéi, c'est qu'il va passer beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, à travailler la terre. On a quand même ici une assez bonne répartition de l'explication des différences entre l'homme et la femme. Un des rôles majeurs de l'épouse va être représenté par la maternité, même si ça l'empêche pas de travailler, puisqu'elle est souvent au travail dans la parole. Et on comprend aussi qu'elle va avoir une forme de sensibilité plus délicate que celle de l'homme. Un des rôles majeurs de l'homme va être le travail. Et ça va même devenir parfois une obsession. Dieu va instituer le sabbat pour que l'homme apprenne à se reposer. Aujourd'hui encore, l'homme peut se perdre dans des aspirations carriéristes démesurées. Donc l'homme reçoit le rôle de chef de son épouse, chef de famille. Il doit également l'enseigner. Puisqu'en fait, quand on a lu les instructions données par Dieu à l'homme par rapport à l'arbre du bien et du mal, la femme n'était pas là. Donc c'est bien l'homme qui a dû enseigner sa femme sur les choses que Dieu avait dites. Dieu l'a voulu comme ça. Et donc le péché va casser cette harmonie. En tant que femme de Dieu et homme de Dieu, quels sont donc les points de vigilance que nous devons garder à l'esprit? On va commencer par vous, mesdames. Ça ne va pas durer longtemps, ça va bien se passer. Donc, on peut lire Éphésiens 5, versets 22-24. Moi, le temps qu'on a pour moi, dit Pascal.
Il a peur quand on a la soif.
Alors, Éphésiens 5, versets 22-24, on l'a déjà lu tout à l'heure. Bon, c'est pour juste rappeler que la femme doit être soumise à son mari, on ne va pas le relire, et on va lire 1 Timothée 2, versets 9 à 15. Alors 1 Timothée 2, versets 9 à 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme, qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, juste une petite parenthèse sur la fin du passage, parce que ma traduction peut laisser penser que si une femme n'est pas mère, elle n'est pas sauvée, mais c'est pas ça qu'il faut comprendre. En fait, ici, Paul fait référence à Genèse 3, 15, lorsqu'il parle de Satan et de la postérité de la femme qui va lui écraser la tête. Donc en fait, on comprend que ce qui est dit ici, c'est que la femme, par la maternité, va donner une descendance qui sera Jésus et qui va tous nous sauver. Il n'est pas question de dire qu'une femme stérile ou une femme qui n'aurait pas d'enfant ne peut pas être sauvée, puisque à un autre endroit, même Paul dit qu'il vaut mieux ne pas être marié parce que ça veut dire qu'on s'attache mieux à Dieu, donc il se contredirait. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais par contre, ici, Paul donc rappelle que la parole de Dieu n'a pas changé par rapport à ce que nous trouvons dans la Genèse. Donc qu'est-ce qui pourrait être un piège pour la femme? C'est être poussé par les ruses du diable à prendre un rôle, une mission destinée aux hommes. Et lorsqu'on a lu dans Genèse que les désirs de la femme se porteront sur son mari, on peut y voir cette tentation de contourner l'autorité masculine pour se l'approprier. La femme peut avoir ce désir d'inverser les rôles. Et c'est la raison pour laquelle, dans une société où tous les signaux nous poussent à une libération, une émancipation de la femme, un grand amalgame au niveau des rôles, je reconnais que c'est un vrai défi de vouloir glorifier le Seigneur en mettant en pratique cette compréhension de la soumission. Et donc c'est un point de vigilance sur lequel vous pouvez être attaqué, et ça se comprend tout à fait. Et donc il faut qu'ensemble on puisse être vigilant là-dessus. On comprend donc qu'à la base votre rôle était clair et accepté, mais depuis la malédiction, tes désirs se porteront sur ton mari. Ça peut vouloir dire que une femme peut être tentée, lorsqu'il y a un désaccord, à vouloir manquer de respect et à lui faire comprendre qu'elle ne se soumet pas forcément à lui. Et ce manque de respect, c'est quelque chose qui blesse vraiment les hommes. Et c'est vraiment notre point faible. Si Pierre et Paul donnent ces instructions très précises à la femme de respect envers la position de l'homme, c'est parce que, effectivement, nous en avons besoin. Et l'ennemi peut se servir de ça pour effectivement faire du mal dans la famille. J'ai lu en fait un bouquin qui s'appelle L'amour et le respect, je pourrais vous le conseiller, où l'auteur dit quelque chose de très vrai. Il dit, si vous demandez à un homme s'il préfère que sa femme lui dise « je t'aime » ou « je te respecte », on peut faire le test. En fait, l'homme, il va être beaucoup plus sensible au respect. Non pas que l'amour de la femme ne soit pas cher à ses yeux, mais ce qui compte en priorité, c'est vraiment le respect. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de s'entendre dire toutes les heures qu'on nous aime, on le sait que vous nous aimez. Par contre, le respect, c'est quelque chose d'important. Et si une femme dit avec sincérité à son mari, je te respecte et je suis heureuse de t'appartenir, derrière, elle peut lui demander vraiment ce qu'elle veut. Parce que nous sommes faits comme ça, et c'est vrai. On peut en débattre après, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et peut-être que vous le savez.
C'est ça.
Eh oui. Bon, je vois David Pontal qui regarde l'heure. Il me faut 10 minutes de plus, c'est ce que vous m'accordez?
Oui, oui.
Parce que sinon, on ne fait que la femme et l'homme, on le fera, on verra quand. Les femmes me les donnent. Okay. Il y a aussi cette question du silence. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne peuvent pas s'exprimer? Évidemment que non, puisque dans la Bible, il y a un tas de femmes qui prient, qui chantent. Certaines ont été prophétesses. Elles ont commercé, elles ont pu entreprendre. On a vu ce message-là de Alain dimanche qui était très bien. Il y a des diaconesses. Donc en fait, quand il est question ici du silence, c'est la question de l'enseignement qui est donné. La position de notre Église ici réserve l'enseignement de la parole de Dieu à l'homme. Et ça, c'est vraiment pour se conformer à ce que nous avons lu et qui est décrit de manière très claire en fait et sans équivoque. Parce que Paul, lorsqu'il dit à la femme de ne pas enseigner les hommes, il se réfère justement à ce qui s'est passé dans la Genèse. Et en fait, il prend les paroles prononcées directement par Dieu lui-même. Il n'est pas en train de parler d'un contexte social ou d'une culture où la femme devait rester discrète. En fait, je suis d'accord pour dire qu'il y a certains points qui doivent être interprétés en les contextualisant, mais ici, je l'interprète comme n'étant pas le cas, puisque ce rappel de la Genèse et du jugement de Dieu est fait. Et donc, on sait bien que ce que Dieu a dit à Dieu est toujours d'actualité, puisque lorsque l'accouchement arrive aujourd'hui, mesdames, vous souffrez encore. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, en fait, est toujours en action. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait pour garder ça pour nous, comme si on avait la crainte de perdre un avantage, parce qu'on croirait que nous, on sait mieux que vous, absolument pas. Je suis persuadé que vous, mesdames, à ma place, vous diriez les choses, même certainement mieux que moi. Mais en fait, c'est vraiment pour se conformer à ce passage-là de la parole. Et voilà, donc il y a des églises, c'est vrai, qui interprètent ce point de manière différente, en laissant la femme enseigner l'homme. Mais en fait, notre conscience nous pousse vraiment à respecter cette répartition des rôles qui est présentée ici. On termine ou on fait les hommes? On fait les hommes?
Oui. Allez, les hommes.
Quels sont les points de vigilance pour les hommes? Abuser de sa position dominante. 1 Pierre 3,7. Si vous pouvez envoyer les versets, comme ça David sera content.
Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne s'accaparer.
Voilà, donc il est demandé, bien entendu, de traiter notre épouse de manière absolument aimante. Et en fait, tout ce que nous avons vu sur le dirigeant tout à l'heure doit nous revenir, en fait. Voilà. Également, on ne doit pas croire que notre femme n'a aucun droit sur nous. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4.
Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
Voilà, donc là, c'est vraiment un point qui nous montre bien l'égalité entre l'homme et la femme, et que la femme a des droits aussi sur l'homme, puisque donc notre corps, en fait, appartient concrètement à notre femme, à nos épouses. L'homme aussi ne doit pas se croire supérieur parce qu'il a reçu l'autorité. Galates 3:28.
Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Voilà, donc on est un en Jésus-Christ, donc c'est pas parce que l'homme a reçu ce rôle de l'autorité qu'il doit se croire supérieur à l'épouse, bien entendu. Et à l'inverse, nous devons non plus ne pas négliger notre mission. Notre rôle est de guider notre femme. Et on peut lire Éphésiens 5, verset 23. Enfin, on va pas le lire, mais parce que je crois qu'on l'avait déjà lu. C'est là où il est dit que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église. Voilà, donc il ne faut pas déserter notre rôle, il faut vraiment l'assumer comme il est décrit ici. Et là, c'est le plus beau pour vous, mesdames. Éphésiens 5, verset 20, Éphésiens 5, 25 à 28.
Hein? Je vous dis, il va le lire, oui.
Je vais garder pour la fin. Éphésiens 5, donc, verset 25 à 28.
On avait lu aussi ça.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Voilà, aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est un vaste programme. Comment aimer nos femmes? En fait, comment est-ce que nous on réagit quand il y a une brouille? On a vu que les dames avaient plutôt tendance à manquer de respect, à nous faire passer pour des incapables. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous renfermons sur nous-mêmes. Si les femmes nous privent de respect, nous les privons d'amour et d'affection. Et souvent nous disons stop, communication coupée, et on se ferme, on devient un mur. Et ça, messieurs, c'est ravageur pour nos épouses. les priver d'affection et d'écoute leur fait aussi mal que lorsque elles, en fait, elles nous privent de leur respect. Et c'est pour ça que dans le manuel qu'est la Bible, Paul et Pierre nous disent « Marie, aimez vos femmes, écoutez-les pour de vrai, prenez soin d'elles, de leur bien-être, de leurs émotions. Et si votre femme, elle a ça, alors elle sera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile et évident pour elle de vous renvoyer le respect dont on a besoin. » En fait, on en arrive à un cercle vertueux. Plus je l'aime, plus elle me respecte, plus je le respecte et plus il m'aime. L'autorité que nous recevons est donc comme un cadre qui va les apaiser et les rassurer. Et en fait, j'avais entendu un message d'un pasteur qui disait qu'il faisait de la danse de salon. Et il disait, je ne sais pas pourquoi, dans la danse de salon, tout à coup les principes sont bien respectés dans notre société. Et mon prof de danse me disait, il faut que tu sois beaucoup plus ferme, le cadre, tiens le cadre. Et la femme, en fait, elle se reposait sur le mari pour pouvoir danser. Et plus les rôles étaient respectés, et plus la danse était belle. Et c'est vraiment ça, en fait, que nous devons montrer. Et ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on voit un couple danser, c'est quoi le plus beau ? C'est vraiment la femme, en fait. L'homme, il est là juste pour donner le cadre, mais c'est la femme qui fait vraiment tout ce qui est le plus beau. Et en fait, nous devons réaliser que nous sommes aussi l'épouse, puisque nous sommes l'épouse de Christ. Et au bout de tout ça, je suis convaincu que si nous cherchons à comprendre ces versets et les mettre en pratique, nous allons pouvoir nous rapprocher de l'harmonie du premier couple dans le jardin d'Éden, lorsque tout était évident. Et donc, le manuel est là pour nous, contrairement à ce que pense notre société. C'est bien la clé pour répondre aux besoins de la femme et aux besoins de l'homme. Et nous sommes vraiment, nous, la fiancée de Christ. Et c'est une image de ça qui doit être donnée aussi dans les couples. Il y a aussi un encouragement pour nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés à des conjoints, qui sont mariés à des conjoints pardon, non convertis dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2, où il est dit que par notre respect de ce que nous venons de lire, en fait, nous pouvons toucher le cœur de l'autre. Donc c'est aussi un témoignage à donner. Donc cette compréhension-là du mariage n'est pas que pour les couples de deux chrétiens, mais aussi quand il y a un conjoint qui n'est pas converti. Voilà, bon, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire parce que je me suis un peu laissé dépasser par le temps. Je vous avais prévenu, je ne suis pas trop exercé à ce format-là. Mais en conclusion, je voudrais quand même dire, j'ai été frappé dans cette étude de voir combien la Bible parle de l'autorité avec douceur et amour. Et en fait, on est vraiment très loin de ce que ce monde veut imposer, de la dureté dans les rapports humains, qui devient parfois aussi de l'autoritarisme. L'autorité est le moyen de donner un cadre pour le déroulement des plans de Dieu, un peu comme les règles de la physique que Dieu a établies permettent de régir l'univers et lui donner sa beauté. Et donc, c'est normal, puisque nous connaissons le cœur de notre Dieu, nous savons qu'il est plein de patience et d'amour. J'espère donc que nous avons été poussés à regarder Christ, qui nous a montré la voie, et lui qui n'aurait jamais dû arriver à notre niveau, mais par amour, il a tout supporté. Et on va terminer quand même en lisant 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Alors, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui a injurié ne rendu des points d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Voilà, donc on va terminer peut-être par la prière. Est-ce que Josias, tu veux prier s'il te plaît ?
Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ces moments, pour ta parole, pour vraiment ces encouragements que tu nous as donnés encore ce soir. Et Seigneur, ces passages tellement pratiques pour notre quotidien. et vraiment que nous puissions repasser cela dans nos cœurs, Seigneur, parce que c'est vrai, ta parole est un manuel qui nous permet de vivre d'une manière tellement simple en nous reposant sur toi, Seigneur, et contrairement à ce que le monde voudrait nous inculquer, Seigneur, permet que nous puissions vraiment nous rappeler de ce que tu nous as dit ce soir. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci aussi de raccompagner chacun, Seigneur, et nous voulons vraiment te bénir pour ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais. Et nous pensons, Seigneur, encore aussi aux moments qui vont suivre, en particulier le week-end, les baptêmes, et que là encore, Seigneur, ta gloire puisse se révéler dans les cœurs. Amen.
Amen. Amen.